La mémoire au service des apprentissages.
Être et savoir. Louise Touret.
Et aujourd'hui, être et savoir sur la mémoire. Savoir, c'est se souvenir. Platon et Aristote l'enseignaient en leur temps. Si la mémoire représente tant de choses différentes pour l'être humain, le savoir est bien une mémoire. Et plus prosaïquement, la mémoire se comprend aussi comme un outil indispensable pour l'écolier, l'étudiant, pour celui qui apprend, pour vous, pour moi. Savons-nous pour autant bien l'utiliser, cet outil ? En effet, les progrès scientifiques de la connaissance du cerveau nous éclairent sur le rôle et le fonctionnement de la mémoire et même de la mémoire au service des apprentissages. Ces nouveaux savoirs permettent-ils d'envisager des approches d'acquisition plus efficaces pour les élèves ou les professeurs si l'on retourne dans la classe. D'un autre côté, d'autres outils, les outils numériques et le stockage des données dans des mémoires informatiques, va-t-il influencer nos usages et nos représentations de la mémoire humaine ? Mais d'ailleurs, ces représentations de la mémoire ne sont-elles pas parfois trompeuses ? Et surtout, et enfin, c'est le but de cette émission, nous allons entendre combien à l'heure où les spécialistes parlent de mémoire du futur, cette expression est extrêmement belle. La réflexion contemporaine et pluridisciplinaire sur ce qui demeure un grand sujet, tant philosophique que scientifique, est plus que jamais en ébullition. Et en fin d'émission, la deuxième partie de la leçon de choses de Paul Chemetov. Écoutez l'architecte, il va citer Louis XIV qui reprend et reprendre cette idée qu'il faut une part d'enfance dans l'architecture. La leçon de choses, c'est signé Sophie Bobert, évidemment, comme chaque semaine. Et je vais saluer nos invités. Bonjour Olivier Houdet.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du développement cognitif et des apprentissages, professeur de psychologie et de développement à l'Université Paris-Descartes. Auteur notamment, je cite juste vos deux derniers ouvrages, « Comment résonne notre cerveau ?» C'est un « Que sais-je ?» Et puis, assez énorme, hein, c'est un regroupement de quatre « Que sais-je ?» Et puis, tout récemment, « L'intelligence humaine n'est pas un algorithme. » Et ça s'est publié chez Odile Jacob avec une préface de Jean-Pierre Changeux. On dit que vous avez enseigné aussi, vous avez été instituteur.
Oui, c'était ma première vocation et c'était l'idée d'éveiller dans la mémoire de l'enfant à la fois l'intelligence, mais aussi la beauté.
Avec nous également Francis Eustache en duplex depuis Caen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du conseil scientifique de l'Observatoire B2V des mémoires, neuropsychologue et directeur d'études à l'école des hautes études, EPHE. Vous avez dirigé des ouvrages collectifs comme La mémoire du futur, publié aux éditions du Pommier tout récemment, et puis La mémoire entre sens, science et société, et puis Pourquoi notre mémoire est-elle si fragile, réédité en 2017, et puis La neuroéducation au cœur des apprentissage. Vous êtes donc au cœur de notre sujet. Nous rejoindra aussi Sébastien Martinez, un champion de la mémoire. Ça existe, les championnats de mémoire. Il a également publié une bande dessinée sur le sujet. Mais nous commençons avec un autre spécialiste de la mémoire, Henri Bergson.
J'étudie une leçon. Et pour l'apprendre par cœur, je la lis d'abord en scandant chaque vers. Je la répète ensuite un certain nombre de fois. À chaque lecture nouvelle, un progrès s'accomplit. Les mots se lient de mieux en mieux, ils finissent par s'organiser ensemble. À ce moment précis, je sais ma leçon par cœur. On dit qu'elle est devenue souvenir, qu'elle s'est imprimée dans ma mémoire. Je cherche maintenant comment la leçon a été apprise. Et je me représente les phases par lesquelles j'ai passé tour à tour. Chacune des lectures successives me revient alors à l'esprit avec son individualité propre. Je la revois avec les circonstances qui l'accompagnaient et qui l'encadrent encore. Elle se distingue de celles qui précèdent et de celles qui suivent par la place même qu'elle a occupée dans le temps. Bref, chacune de ces lectures repasse devant moi comme un événement déterminé de mon histoire. On dira encore que ces images sont des souvenirs, qu'elles se sont imprimées dans ma mémoire. On emploie les mêmes mots dans les deux cas. S'agit-il bien de la même chose? Le souvenir de la leçon, en tant qu'apprise par cœur, a tous les caractères d'une habitude. Comme l'habitude, il a exigé la décomposition d'abord, puis la recomposition de l'action totale. Comme tout exercice habituel du corps, enfin, il s'est emmagasiné dans un mécanisme qu'ébranle tout entier une impulsion initiale dans un système clos de mouvements automatiques qui se succèdent dans le même ordre et occupent le même temps. Au contraire, le souvenir de telle lecture particulière, la seconde ou la troisième par exemple, n'a aucun des caractères de l'habitude. L'image s'en est nécessairement imprimée dans la mémoire, puisque les autres lectures constituent, par définition même, des souvenirs différents. C'est comme un événement de ma vie. Il a pour essence de porter une date et de ne pouvoir par conséquent se répéter.
Mémoire des savoirs et des événements de la vie. On entendait une lecture du philosophe Henri Bergson, un extrait de Matière et mémoire qui avait été publié en 1896. La lecture, elle date de 1971. C'était un disque et c'est Pierre Lamy qui en faisait donc la lecture. Sur ce disque, on peut entendre Jean-Louis Barrault et Jean Villard, donc qui lisent. Bergson, un commentaire, Olivier Houdet, sur cet exposé,
Oui, absolument, cette belle citation de Bergson par lui-même. Alors ça me touche parce que je viens d'être élu à l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France où fut Henri Bergson et d'autres grands philosophes ou psychologues comme Théodule Rimbaud. Donc entendre les voix est évidemment très inspirant. Ce commentaire de Bergson sur le contexte en quelque sorte des étapes de la mémoire et du souvenir me fait penser, je conseille cela à vos auditeurs, un petit livre de Proust, un petit celui-là, qui s'appelle Lire. Et il dit qu'on se souvient davantage du contexte, des événements, des émotions dans lesquels on a lu que du livre lui-même. Et venant de Proust, c'est quand même assez extraordinaire. En revanche, je crois qu'il y a d'autres processus que ceux que décrivent Bergson. Il y a bien sûr l'habitude, l'automatisme, le contexte de l'apprentissage de l'habitude. Mais notre cerveau doit aussi quelquefois inhiber des mauvaises habitudes, une mémoire trompeuse. Mais je crois qu'on en reparlera.
Francis Stache, dans vos livres, et d'ailleurs vous citez aussi Rimbaud, qu'a évoqué Olivier Houdet, vous dites qu'il y a trois grands âges d'avancée des connaissances sur la mémoire, le 19e siècle, les années 60, et puis notre époque, où à la fois les découvertes et aussi les avancées théoriques sur la question de la mémoire sont particulièrement intéressantes et spectaculaires.
Oui, alors tout d'abord, merci d'avoir cité Bergson et ce livre qui est peut-être un des plus beaux livres écrits sur la mémoire, Matière et mémoire, et en réécoutant cette citation, on voit des concepts justement qui émergent, qui vont être développés à cette période, fin du 19e, début du 20e, grosso modo jusqu'à la guerre 14, avec une sorte d'ébullition, à la fois chez les philosophes, chez les premiers psychologues comme Rimbaud, et puis également chez les neurologues, les psychiatres. Il y a aussi la psychanalyse à cette époque. Donc dans le texte, il est fait état de différentes formes de mémoire qu'on voit en filigrane. La mémoire des événements datés, situés dans l'espace, qu'on appelle aujourd'hui la mémoire épisodique. Et puis cette nécessaire automatisation, même si elle doit être maîtrisée, inhibée dans certains cas, mais qui est la voie aussi vers les apprentissages. Alors c'est remarquablement décrit à propos de cette leçon apprise par cœur, on voit les différentes étapes. Donc ça c'est une grande période dans l'étude de la mémoire. Les années 60, c'est une époque déjà plus scientifique, avec la naissance de disciplines qui s'organisent, comme la neuropsychologie, comme la psychologie cognitive. Bon, certes, la psychologie et la neuropsychologie existaient déjà à la fin du 19e, mais elles étaient beaucoup moins structurées. Et puis aujourd'hui, ce qui va dominer, c'est des approches scientifiques pluridisciplinaire avec l'imagerie cérébrale qui est très importante, qui nous permet de comprendre certains phénomènes. Et donc pour se rapprocher de la thématique d'aujourd'hui, par exemple tous les travaux qui sont faits chez l'enfant, chez le développement du cerveau chez l'enfant, et Olivier Houdet y a beaucoup participé. Donc ça, c'est vraiment une approche très très nouvelle. Et puis avec des aspects théoriques, je le redis, pluridisciplinaires, donc tout à fait essentiels pour comprendre l'ensemble des phénomènes. Et puis en même temps, des applications. Et c'est aussi ça qui est très important, des applications pour les malades, mieux comprendre les maladies, mieux soigner les malades. Et puis également des applications dans le domaine de l'éducation, et bien sûr, nous y reviendrons.
Alors oui, à vous lire, Francis Stache, on apprend que les pathologies de la mémoire ont permis de découvrir mieux son fonctionnement et de l'explorer. Alors, ce ne sont pas des pathologies, mais beaucoup d'enfants ont des difficultés dans les apprentissages, dans la mémorisation. Après tout, nous en avons tous à certains moments. Est-ce que ces difficultés nous éclairent aussi sur le fonctionnement de la mémoire et sur le fonctionnement de la mémoire au service des apprentissages?
Oui, il faut effectivement distinguer les pathologies de la mémoire qui existent aussi chez l'enfant. Les lésions ont été acquises de façon très très précoce, parfois à la naissance. Et puis les troubles surviennent plus tard. Donc, ce qui montre bien que certaines régions du cerveau vont être spécialisées dans certaines périodes du développement de la mémoire. Donc, avec dans certains cas des effets retard. Alors ça, c'est très important. Et puis, l'autre aspect qui est dans votre question, c'est qu'effectivement, la mémoire, peut-être qu'on n'apprend pas assez bien à l'utiliser, à s'en servir. Et peut-être même qu'aujourd'hui, elle est encore plus malmenée qu'elle ne l'était dans le passé, parce que nous sommes, et les enfants sont dans un monde qui évolue très vite autour d'eux. Bon, nous, adultes, nous en avons conscience, enfin, j'espère que nous avons conscience de ce monde qui évolue très vite. Je pense bien sûr à toutes les nouvelles technologies et la façon de les utiliser, parce que ce ne sont pas les technologies en elles-mêmes qui sont en cause, mais c'est la façon dont on les utilise au plan sociologique. Et peut-être que cette mémoire, elle est un peu malmenée.
Olivier Houdet, sur ce point de la mémoire malmenée, évidemment, il va être exploré. Mais sur les situations d'apprentissage, est-ce que finalement, on a suffisamment exploré le fonctionnement de la mémoire dans ces situations-là pour utiliser au mieux cette mémoire en classe ou comprendre comment elle fonctionne dans les apprentissages qui parfois sont si difficiles?
Évidemment, comme le disait le grand psychologue suisse Jean Piaget, observer l'enfant en développement est vraiment la clé pour comprendre beaucoup de phénomènes adultes et contemporains, en particulier la mémoire. Alors, ce qui est essentiel au cœur de tous les apprentissages, lire, écrire, compter, penser, raisonner, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. Une partie de la mémoire qui se trouve à l'avant du cerveau, dans le cortex dit préfrontal, et où l'enfant réfléchit au moment où il doit résoudre un problème, répondre à une question en classe. Et cette mémoire de travail est très, pas fragile, mais limitée. Et donc, on dit quelquefois qu'elle est limitée à un nombre magique qui est 1 d'une unité au début du développement à 7 unités à la fin du développement, 7 plus ou moins 2 parce qu'on a chacun plus ou moins une bonne mémoire de travail. Ça veut dire que vous pouvez retenir, par exemple, à un moment donné du développement, 5 éléments en même temps en mémoire. Et cela contraint totalement les apprentissages. Mais on ne peut pas réduire le développement cognitif à cela. Pour moi, la mémoire est formidable, mais n'est jamais que le jardin de l'intelligence. Donc ce qui compte, c'est le raisonnement, l'intelligence. Comment, en mémoire de travail, on va sélectionner certaines informations, inhiber certaines pour en activer d'autres. Et pour faire cela, il faut de l'attention, de la sélection et surtout du raisonnement. Aujourd'hui, plus que jamais.
L'attention de se faire être moins nombreux en classe, par exemple, ça peut être
peut une contribuer, mais
parce que c'est un sujet d'actualité.
Oui, d'accord, mais oui, bien sûr, tout le monde est d'accord avec cela. Je crois simplement qu'il ne faut pas confondre les mesures organisationnelles de la classe et la connaissance fine du cerveau et des processus cognitifs. Il ne suffit pas de diviser les classes en deux pour que la pédagogie soit bien adaptée aux connaissances actuelles en sciences cognitives sur le cerveau des enfants et des enfants en contexte social. Ce sont plusieurs mémoires et plusieurs cerveaux qui en même temps interagissent.
Oui, puisque la classe est un milieu d'apprentissage collectif. Alors, traditionnellement, l'école est une institution de mémoire. Il y a bien des mémoires dans l'école, puisque le mot mémoire est extrêmement polysémique, finalement. Et puis, il y a cette tradition d'apprendre par cœur, par exemple, des tables de multiplication, des listes, même de vocabulaire. C'est encore préconisé aujourd'hui. Est-ce que ça sert à se muscler la mémoire.
Oui, alors ce qu'on a découvert dans mon laboratoire, en effet, en explorant grâce à l'imagerie cérébrale le cerveau d'enfants, d'adolescents et d'adultes en développement, c'est que nous avons deux façons d'apprendre et de mémoriser. Soit nous commençons d'abord par être très concentrés, quand ce qu'évoquait Bergson, quand il apprend une leçon, il apprend une liste par cœur, c'est le cortex préfrontal que j'évoquais qui travaille. Il travaille à fond, il est concentré, on voit toute la partie avant du cerveau qui s'active. Mais au fur et à mesure que l'on apprend et que les automatismes se cristallise dans le cerveau, il y a une bascule de l'avant vers l'arrière du cerveau dans des zones plus postérieures. Et alors l'automatisme, l'habitude est acquise. C'est ce qu'on appelle un apprentissage antéro de l'avant, postérieur vers l'arrière du cerveau. Mais ce qu'on a découvert aussi, c'est qu'il fallait apprendre à faire exactement l'inverse. Quand on a un automatisme dans un apprentissage à l'école, par exemple, apprendre à l'inhiber, le bloquer pour raisonner autrement, pour être créatif. Et dans ce cas-là, on a observé en imagerie cérébrale que le cerveau bouge, se reconfigure en sens inverse, de l'arrière vers l'avant du cerveau. Et en fait, tous les apprentissages que j'ai cités, lire, écrire, compter, penser, raisonner, nécessitent, pour reprendre votre expression, de muscler le cerveau dans les deux sens. Il faut aussi quelquefois raisonner et inhiber ce que l'on a appris par cœur et qui, à un moment donné, nous trompe, ce qu'on appelle une heuristique, que Kahneman, prix Nobel d'économie, psychologue, a appelé le système 1. Un heuristique qui domine toujours notre logique et nos algorithmes.
Pour reprendre l'image du sport, il ne suffit pas de se muscler. La souplesse et la mobilité doivent être aussi entretenues. Francis Eustache, sur ce point, et je reviens à mon exemple des tables de multiplication. On peut aussi parler des préfectures. Alors, c'est pas ma génération, mais les gens de la génération précédente connaissent encore les préfectures, les sous-préfectures et beaucoup de dates historiques et des poèmes. On n'a pas longtemps parlé de la poésie. Dans cette émission, on voit que cette mémoire de l'enfance, elle reste gravée toute la vie, même parfois après que des pathologies aient attaqué le fonctionnement de la mémoire.
Oui, la mémoire, c'est une mosaïque. On a besoin de toutes ces formes de mémoire dont certaines ont été évoquées déjà depuis le début de l'émission. Un peu la mémoire du présent psychologique, c'est la mémoire dont on a vraiment besoin de cette mémoire pour apprendre. Et il faut un peu la protéger des informations multiples qui peuvent survenir. Et donc, effectivement, moins d'enfants dans les classes, une certaine attitude, une certaine ambiance de travail, ça c'est très important. Et puis, l'apprentissage par cœur, bon, c'est une forme d'apprentissage, il y en a beaucoup d'autres. Il y a l'apport également de la signification des informations, ce qu'on va appeler la mémoire sémantique, qui est aussi une dimension extrêmement importante des apprentissages. Et quand vous avez parlé d'un poème, ou on peut prendre l'exemple aussi de chansons, ce qui est très important, c'est le lien avec le collectif. La mémoire, ce n'est pas simplement, même si c'est la mémoire d'un élève, d'un écolier, ce n'est pas seulement une mémoire individuelle, c'est une mémoire qui va servir également le lien collectif. Et ce lien collectif, on le retrouve également, effectivement, quand les personnes vieillissent, voire quand elles deviennent dépendantes, et vont retrouver, c'est d'ailleurs Ribot qui avait montré ça, on appelle ça la loi de Ribot, vont retrouver ces informations qui viennent du passé, ce qu'elles ont appris il y a très très longtemps, et qui vont participer, ces informations qui vont participer au socle commun. Donc l'apprentissage, ce n'est pas simplement une histoire d'individus isolés, singuliers, mais c'est aussi un apprentissage qui nous permet à vivre ensemble.
Le socle commun, donc c'est pas un commun des savoirs, parce que ça c'est une expression de l'éducation nationale, mais commun au sens de collectif. On pense évidemment au lieu de mémoire, ce concept historique forgé par Pierre Nora. L'école est un lieu de mémoire dans le sens des apprentissages et l'exemple de la poésie. Mais aussi vous parliez du sens et on pourrait s'intéresser aux dates 1515. Marignan. Oui, voilà, tout le monde se rappelle de cette association. Mais qui sait pourquoi se battait François Ier et combien de morts fit cette bataille? J'ai relu des informations à ce sujet, 15 000. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte de sens à force d'apprentissage par cœur? Qu'en pensez-vous, Francis Eustache?
Non, je pense que c'est pas du tout incompatible. C'est une dimension de la mémoire que de que de savoir les tables de multiplication. Et je pense qu'il faut apprendre des tables de multiplication. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, même si on a des ordinateurs qui peuvent le faire très vite.
Et tout...
c'est aussi toute la question de la mémoire interne et de la mémoire externe. C'est-à-dire qu'il faut qu'on l'on conserve, et il faut encourager nos enfants à conserver une mémoire interne efficace, efficiente, qui permet de développer un discernement, un libre arbitre. Et c'est aussi très important de savoir se connecter et de savoir utiliser des informations externes dans le monde d'aujourd'hui, comme c'était le cas aussi dans le monde d'hier.
Et tous les spécialistes des mathématiques affirment qu'il faut bien connaître ces tables de multiplication. C'est un préalable pour progresser dans cette discipline. Olivier Houdet, en préparant cette émission, je pensais aux murs des classes que je visite souvent, les classes qui sont souvent chargées de mots, de tableaux, de conjugaisons. Bientôt, les paroles de l'hymne national. À quoi cela sert-il d'être entouré de signes ? Est-ce que c'est une manière aussi d'apprendre, d'être dans ce bain de connaissances et de signes, de savoir.
C'est très important, c'est ce qu'on appelle l'exposition perceptive. Déjà, Maria Montessori, grande pédagogue de l'éducation nouvelle au début du XXe siècle, disait « Le cerveau de l'enfant est un extraordinaire accumulateur. Il accumule absolument toutes les informations qui l'entourent, avec une sensibilité parfois aux détails que nous, adultes, avons complètement perdu. Pour la poésie, je voudrais juste ajouter que le cerveau et la mémoire doivent être exposés autant que possible, et par exemple sur les murs des classes, ou dans une architecture des écoles qui devrait être plus belle qu'elle ne l'est, à la beauté. Notre mémoire doit s'inscrire dans des réseaux de neurones qui déclenchent la surprise. Il faut une surprise quand on voit un beau tableau ou qu'on entend une belle mélodie. Il faut de la cohérence entre l'ensemble et le détail, comme la composition d'un tableau ou d'une musique. Et enfin, la parcimonie, le fait que ce qui est dessiné ou mis sur les murs des classes ou une poésie qu'on présente aux enfants soit élégante, parcimonieuse, c'est-à-dire qu'on... comme, si vous voulez, la touche de blanc sur un œil dans un tableau de Rembrandt, ou une courbe de Picasso qui dessine le corps d'une femme ou un visage. C'est parcimonieux, c'est élégant. Et ce triple critère, surprise, cohérence, parcimonie, crée de la beauté dans la mémoire. Et il est essentiel d'exposer les enfants, où qu'ils soient, à la beauté. Cela peut se faire aujourd'hui par des musées virtuels. On peut avoir le Louvre en virtuel, même si on est dans une petite école très loin du Louvre. Et n'oublions pas que cette mémoire doit aussi être, la poésie en est un exemple, mais il y a aussi la peinture, les cours de dessin qui sont parfois mis à la marge de l'enseignement scolaire. On fait plutôt sauter le cours de dessin pour avoir le cours de maths sur les tables de multiplication. Donc, bien sûr, les tables de multiplication sont essentielles, mais n'oublions pas l'art, la beauté, qui peut donner à notre mémoire une certaine cohérence, qui sera d'abord esthétique et qui est aussi sans doute morale, parce que quand on trouve les choses belles, cohérentes, on s'inscrit aussi dans une attitude à l'égard des autres qui peut être belle et cohérente.
Francis Eustache, voilà qui fait le lien entre mémoire et émotion. Et ce lien, il en est question dans les livres que vous avez dirigés sur cette question de la mémoire.
Oui, la surprise. La surprise et l'émotion sont des mots qui sont proches. L'émotion, elle est brève, mais elle joue un rôle très important pour capter l'attention de l'enfant et enrichir l'information qui lui est présentée. Donc c'est une dimension très importante. Il y a aussi cette notion d'espace qu'on n'a pas suffisamment évoquée. La mémoire, elle va s'appuyer aussi sur des représentations spatiales qui sont utilisées d'ailleurs, ce qu'on appelle l'art de la mémoire, pour mémoriser les informations. Et puis il y a aussi une dimension qui est très importante puisqu'on parle des apprentissages et des apprentissages au long cours, c'est pas simplement un apprentissage pour quelques minutes, c'est la possibilité pour l'enfant de raisonner sur ce qu'il sait. Sur ce qu'il sait déjà, sur ce qu'il va savoir en apprenant telle ou telle leçon. Et c'est le concept un petit peu savant de métacognition. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant maîtrise les connaissances de ses connaissances? Est-ce qu'il a une bonne connaissance de ses connaissances? Ça, c'est aussi une dimension qui est très importante si on veut faire un inventaire des ingrédients essentiels pour bien apprendre.
Ma mémoire m'a désertée enfin je vais profiter de tout sans rien. N'en regretter, affranchi le lendemain du souvenir, fatalement ça n'a pas duré. La mémoire m'est revenue, mais j'ai eu l'intuition que ça n'était pas la mienne que je retrouvais. À mesure que me gagne.
On a parlé de poésie, et bien c'était un poète, un chanteur, Dominique A. La mémoire neuve, nous parlons donc de mémoire, dans Être et Savoir avec Olivier Houdet, avec Francis Stache, spécialiste de la question, et nous a rejoint Sébastien Martinez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un champion de France ?
De mémorisation, oui.
De mémorisation, c'était en 2015, et vous publiez des ouvrages sur la question. Une mémoire de roi, La mémoire est un jeu, édition Premier Parallèle. Alors, vous donnez des techniques de mémorisation. On a parlé de mémoire spatiale. Au cœur de cette technique, il y a une organisation de la mémoire à la fois dans l'espace et en réseau. Je parlais des représentations de la mémoire dans l'introduction. La mémoire, c'est pas un tonneau qu'on remplit, c'est plutôt un filet, et il est en trois dimensions.
Oui, oui, il est en trois dimensions, et parce que la mémoire, ce qu'elle adore, c'est de l'association. Enfin, nous, en tant qu'athlètes, et par rapport aux stratégies de mémorisation, tout se base sur vraiment les stratégies, les protocoles. Par quelles étapes on doit passer pour pouvoir mémoriser? Alors, dans les compétitions, il y a des listes de chiffres, des jeux de cartes, des listes de mots. Et on passe tout le temps par trois étapes. Première étape, il faut qu'on soit attentif. Deuxième étape, il faut qu'on soit en capacité d'associer les informations. Et enfin, dernière étape, on a des stratégies de consolidation, d'ancrage, de répétition. Et ce qui est assez dingue, c'est que on peut mémoriser des quantités incroyables d'informations. Il n'y a pas vraiment de limite. Et c'est pour ça que j'aime bien la notion de toile d'araignée, enfin de filet en trois dimensions. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle information qui arrive, on peut la connecter à notre filet, à notre maille. Et ça nous permet de la retenir.
Vous dites que la mémoire est infinie, mais ce dont vous cherchez à vous souvenir et dont vous vous souvenez pour ces compétitions, puisque vous en gagnez, est-ce que vous vous en souvenez quelques semaines, quelques mois après ?
Alors, ça dépend de l'objectif. Comme je vous disais, il y a vraiment ces trois étapes. Un, être attentif, associer et après répéter, ancrer. Et du coup, on met en place des stratégies d'ancrage que pendant la durée des compétitions, parce que en l'occurrence les informations qu'on nous demande d'apprendre pendant des compétitions n'ont aucun intérêt pour la vie de tous les jours. Par contre, ce qui est vraiment intéressant là-dedans dans ces stratégies, c'est qu'on peut les dupliquer, les appliquer dans la vraie vie, et quand on a vraiment besoin et on a envie de retenir des informations concrètes comme des visages et des noms ou des concepts dans n'importe quelle matière ou des listes d'informations, moi, j'accompagne des jeunes en médecine, mais on peut mettre des stratégies pour se souvenir toute notre vie si on veut les informations.
Francis Eustache, est-ce que ça intéresse les recherches actuelles sur la mémoire, cet engouement pour la mémoire exceptionnelle et puis des compétitions ?
Alors c'est passionnant. Moi, je travaille plus sur les maladies de la mémoire, mais l'autre versant, en quelque sorte, le fait que des personnes comme Sébastien soient capables d'avoir des performances exceptionnelles, c'est aussi très intéressant, et c'est d'autant plus intéressant que dans la démarche de Sébastien, il y a cette volonté de comprendre, d'aller au-delà de la simple performance à un moment donné, et de transposer dans la vraie vie et d'accompagner, y compris des apprentissages dans des situations extrêmement diverses. Donc ça, je pense que c'est très riche, parce que ça nous donne aussi une dimension des capacités de la mémoire. Et ce que fait Sébastien, en fait, c'est qu'il s'appuie sur ce qui a été appelé l'art de la mémoire, qui est, qui est en fait une discipline très ancienne, hein, qui remonte à l'Antiquité, quand on n'avait pas Internet, les PowerPoint, etc., pour structurer un discours. Donc, en fait, Sébastien a modernisé ces approches-là. Bon, il les a modernisées en les maîtrisant parfaitement, puisqu'il est devenu champion. Mais nous avons aussi la chance qu'il nous les explicite et qu'il les mette à disposition de tout à chacun.
C'est comme si vous compreniez un fonctionnement de notre cerveau dont on a rarement fait l'introspection, Sébastien Martinez.
Oui, c'est un peu l'idée de s'auto-observer. Ça rejoint aussi les pratiques de méditation, de pleine conscience, où il faut être là pour auto-observer ce qu'on est en train de faire. Mais là l'idée, c'est comme un sportif qui va courir, qui va faire un 100 mètres. L'avantage du sportif, c'est qu'il peut avoir un coach qui regarde ses gestes et dire, bah, tiens, il est en train de lever le pied. Là, affine peut-être ta foulée, elle est perfectible. L'inconvénient quand on est athlète de la mémoire, c'est qu'il n'y a personne qui peut observer quels sont les gestes mentaux, la Garandrie dirait, qu'on fait pour y arriver. Donc il faut arriver en même temps à mettre en place ces stratégies et en même temps les auto-observer. C'est ça qui peut être un peu complexe, mais tout le monde est capable de le faire.
Bon, ça fait de vous, hein, comme l'a dit Francis Eustache, un chercheur de la mémoire. En même temps, cette mémoire, elle est parfois, cette utilisation de la mémoire comme un outil, elle est parfois mal comprise par les élèves. C'est ce qu'on appelle le bachotage, tout simplement. Mmh. Travailler parfois pour une note et des apprentissages très rapides qui sont aussi très temporaires, Olivier Houdet.
Oui, vous évoquiez la loi d'association pour l'apprentissage qui était aussi préconisée par les empiristes, Locke, Hume, après le siècle des Lumières. Mais ces associations peuvent être très bénéfiques, comme vous l'avez décrit, pour explorer les capacités presque infinies de sa mémoire, mais peuvent aussi être trompeuses. Prenez l'exemple des fake news aujourd'hui. Ce sont des associations très crédibles, mais qui sont fausses, par rapport auxquelles il faut déployer, grâce au cortex préfrontal, un mécanisme d'inhibition. Il faut bloquer ces fausses informations. Il faut apprendre aux enfants à le faire. Et vous savez, Montaigne disait déjà, mieux vaut une tête bien faite que bien pleine. Il faut bien sûr qu'elle soit garnie, fournie, c'est la culture, ce sont les apprentissages, le socle commun qui est essentiel. Mais il faut aussi et surtout dans le monde d'aujourd'hui apprendre à inhiber les associations trompeuses, et c'est ce que je décris dans mon livre par trois systèmes: heuristiques, qui marchent très souvent comme associations mais qui peuvent être trompeuses, algorithmes logiques qui, eux, ne se trompent pas, mais qui sont plus lents, donc notre cerveau a plutôt tendance à utiliser ces heuristiques et ces automatismes de mémoire. Il faut un troisième système d'arbitrage, et que notre mémoire soit en quelque sorte robuste, et qu'elle puisse, au cas par cas, inhiber les heuristiques pour activer les algorithmes, ce que j'appelle le système 3. Et avec cela, on peut avoir une mémoire intelligente, créative, voire une mémoire du futur, qui nous fait anticiper le regret. Et le regret de quoi ? De répondre trop vite, selon des associations trompeuses.
Je me souviens tout de même de ma question, Olivier Houdet.
Oh, pardonnez-moi. Et c'est pourquoi, un défaut de mémoire.
Et pourquoi, en fait, parfois, les élèves font un contresens de ce qu'on demande, apprennent pour
cette raison-là,
et l'année d'après ne se souviennent pas, en fait.
Oui, je vais vous donner un exemple. On demande, et ça peut aussi être d'une semaine à l'autre. En classe, très souvent, les professeurs nous rapportent, des instituteurs nous disent, on demande aux enfants, Louise, a 25 billes, elle a 5 billes de plus que Léo. Combien Léo a-t-il de billes ? Très rapidement, tous les enfants répondent 30. Ils ont entendu dans la question 25 plus 5. Ils font l'association arithmétique. 25 plus 5 égale 30. Si vous déclinez lentement le problème, il fallait faire 25 moins 5 égale 20. C'est très simple. C'est un algorithme de soustraction que les enfants ont appris. Simplement, ce que leur mémoire et leur raisonnement ne savent pas faire à ce moment-là, c'est inhiber l'association trop rapide après plus j'additionne, pour activer dans ce cas un raisonnement, un micro-raisonnement qui fait qu'après plus, on doit soustraire. Et c'est ça une mémoire intelligente. Et beaucoup d'erreurs des enfants à l'école reposent sur ce phénomène. Ils associent trop vite une réponse trop automatisée que le professeur a parfois trop répétée, qui est aussi, comme on le disait tout à l'heure, dessinée sur les murs de la classe. Il écrit des additions avec après plus j'additionne. Mais dans ce cas-là, le cerveau doit soustraire.
Vitesse et intelligence ne sont pas synonymes. Vous avez utilisé l'expression « mémoire du futur » et c'est chez vous que je l'ai lu, Francis Eustache. Que signifie cette belle formulation ? La mémoire n'est pas orientée vers le passé, mais bien tournée vers le futur.
Alors, c'est aussi une découverte qui nous vient des amnésiques. Les patients qui ont un syndrome amnésique, c'est-à-dire des troubles de mémoire autobiographique extrêmement importants, eh bien, on s'est aperçu que ces personnes ont également des difficultés à se projeter dans le futur. C'est-à-dire, si on leur demande « qu'est-ce que vous ferez ce soir ou demain ?», vous voyez, quand on nous pose cette question, même si on n'a pas la réponse immédiate, même s'il y a un peu de flou dans ce qu'on fera ce soir ou demain, on peut imaginer assez facilement ce qu'on fera ce soir ou ce qu'on fera demain. Les amnésiques ne peuvent pas faire ça. Et de même, des travaux d'imagerie cérébrale, et plusieurs travaux ont été faits sur ce sujet, montrent que les régions du cerveau qui sont impliquées dans la recherche en mémoire du passé, donc de la mémoire classique autobiographique, mais également la projection dans le futur, qu'est-ce que je ferai demain, qu'est-ce que je ferai potentiellement dans un mois, eh bien, ce sont les mêmes régions qui sont activées. Donc en fait, la mémoire, c'est une capacité de voyage mental dans le temps. Donc dans le passé, certes, comme on le sait habituellement, quand on pense mémoire, on pense plutôt mémoire du passé, mais également dans le futur. Et cette mémoire du futur, au-delà de l'image, qui est certes très, très jolie, c'est une mémoire qui est essentielle, parce que c'est cette mémoire qui va nous permettre de raisonner sur le monde, d'imaginer un monde et comment on va pouvoir interagir avec ce monde, comment on va pouvoir avoir notre propre action sur ce monde. Alors cette mémoire du futur, c'est aussi très important de la considérer parce que c'est une mémoire qui est fragile. Il faut donner du temps à l'enfant, à l'adolescent, à la personne qui devient adulte pour bien la maîtriser, bien la saisir, bien en comprendre l'importance, et il faut lui donner du temps. C'est une mémoire qui nécessite de la réflexion, un retour vers soi en quelque sorte, qui nous permet comme ça d'explorer le futur dans sa complexité pour pouvoir agir sur lui.
Et essayer d'apprendre profondément, c'est aussi utiliser sa mémoire du futur.
Oui, parce que apprendre, c'est mettre en lien, on a parlé tout de suite des associations, c'est bien sûr donner du sens, mais ce sens, il n'est pas tourné simplement vers ce que l'on sait déjà, mais il doit être tourné vers ce que l'on veut comprendre. C'est-à-dire que quand on réfléchit, on réfléchit certes à partir des données que l'on maîtrise déjà, mais on a toujours cette propension, et c'est extrêmement important, au plan individuel, mais également au plan collectif, nous avons besoin de construire quelque chose. C'est ça qui va nous guider, qui va guider notre vie, qui va guider toutes nos aspirations. Et donc cette dimension de la mémoire, c'est pas du tout cette dimension de la mémoire, donc du futur, c'est pas du tout un aspect anecdotique de la mémoire. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est le vecteur principal de la mémoire. C'est ce qui nous guide, c'est notre mémoire. Notre mémoire, elle est essentiellement prospective. Et certes, cette mémoire prospective, nous allons l'alimenter par des connaissances, par des savoirs extrêmement divers, par des souvenirs précis de notre vie qui vont permettre d'alimenter cette recherche de mémoire du futur.
Sébastien Martinez.
Oh, c'est ce que vous dites là, Francis Eustache, ça me connecte. Et c'est que j'avais l'impression, moi, avant de découvrir ces stratégies de mémorisation, j'avais peu cette capacité à me projeter, à rêver, à imaginer des projets futurs. Et en fait, maintenant que je pratique toutes ces stratégies de mémorisation, d'association, de visualisation, c'est beaucoup de l'imagination en fait qui se passe, ben, je m'aperçois que c'est un peu le même mécanisme, enfin j'ai l'impression, a priori c'est, vous le validez là, ce que vous dites,
absolument.
Quand soit je suis en train de rêver ou quand je suis en train d'imaginer un projet que je veux faire, soit en famille, soit perso ou pro.
Non, c'est pour ça que je rejoins aussi ce que disait Olivier Houdet, c'est la mémoire, vous voyez, c'est pas simplement automatisé. C'est important, hein, les apprentissages, il y a toute cette dimension qui va nous permettre, en même temps, de réfléchir à notre devenir, etc. Donc on a besoin d'avoir ces apprentissages automatisés. Mais c'est une dimension, ce n'est qu'une dimension. Et c'est très important, à côté de cela, d'apprendre à l'enfant cette capacité de liberté, en quelque sorte, ce discernement. Et c'est ça que je pense que l'on doit protéger aujourd'hui. Il me semble que c'est plus cette dimension qui est mise à mal aujourd'hui que les apprentissages traditionnels.
Alors, protéger dans une économie de l'attention qui est extrêmement disputée, on parle souvent en éducation des écrans, mais le risque technologique, puisqu'il y a aussi ce stockage des données de manière informatique, ce risque technologique a toujours existé à l'endroit de la mémoire. Déjà, l'écriture était représentée par les philosophes comme un danger. Platon, Socrate, parce que la philosophie, eh bien, elle devait être incarnée. Et puis, le livre, évidemment, vu comme une menace. Et puis, on a beaucoup cité Victor Hugo ces derniers jours, il le dit, dans Notre-Dame de Paris, le livre tuera l'édifice, parce que la cathédrale, c'était une mémoire, le livre en est une autre. Est-ce qu'aujourd'hui, ce danger dont on parle tant est bien réel, Olivier Houdet ?
Oui, il est réel, mais en effet, pas plus que le livre à l'époque. Et notre cerveau a, il faut le rappeler, une histoire biologique très très longue, en dizaines, voire centaines de millions d'années, si on prend en compte la genèse du système nerveux central. Le cerveau de chacun d'entre nous comporte 86 milliards de neurones et 1 000 000 000 de connexions. Donc vous voyez la force d'adaptation. On peut s'adapter, mais il faut aussi une très bonne éducation. Éducation à un usage raisonné des écrans. Et on parlait de la mémoire du futur. C'est une belle expression, bien sûr. Mais ce qui compte, c'est de sélectionner dans la mémoire du futur. Ce qui compte, c'est que le réel est un cas particulier du possible et qu'il faut en effet imaginer. Mais il faut ici, je dirais, inhiber des scénarios virtuels qu'il n'est pas raisonnable d'appliquer pour des raisons sociales ou morales. Donc la mémoire est à la fois un potentiel et un danger, et face à ce danger que les écrans peuvent en effet surdévelopper par le biais de fake news, par le biais de comportements de jeunes qui likent toute la journée, mais liker ce n'est pas raisonné, c'est ce qu'on appelle l'heuristique de l'affect. Quand on clique like, ça veut dire on aime ou on n'aime pas, ou on aime plus ou moins ou pas. C'est uniquement le cerveau émotionnel qui fonctionne et pas le cerveau de la logique, des algorithmes, du raisonnement. Et donc quand je dis dans le livre Shodil Jacob que l'intelligence humaine n'est pas un algorithme, c'est parce que nous devons être capables, nous, d'arbitrer par introspection, par métacognition, par conscience de soi, et cela s'apprend à l'école, entre nos automatismes trop rapides qui sont aujourd'hui déclenchés pas seulement, Louis Touret, par ce qui est sur les murs des classes, mais beaucoup plus déclenchés par les smartphones et par les écrans. Et nous avons des déclencheurs sur les écrans qui immédiatement activent dans le cerveau un réseau neuronal qui quelquefois est bien adapté, mais qui très souvent est simplement lié à l'émotion, à la croyance, à l'impulsion, et qui n'est pas nécessairement ce que l'on pense vraiment, notre logique, notre rationalité, qui reste quand même le trésor du cerveau humain qui aujourd'hui face aux écrans est en effet malmené. Il faut donc une éducation à l'usage raisonné des écrans, il y a ce que j'appelle le contrôle inhibiteur, résister à soi. Parce que comme notre champion le disait, toutes ces mémoires que l'on découvre, elles sont en nous, autant les bonnes que les mauvaises.
C'est cette panique, Francis Eustache, présente davantage une menace pour la mémoire et le raisonnement que l'idée que les connaissances peuvent être stockées ailleurs que dans la mémoire des élèves, des étudiants et de ceux qui cherchent à apprendre.
On a toujours eu des mémoires externes. On sait que telle ou telle personne est expert dans tel ou tel domaine. On consulte les encyclopédies, les livres, les journaux. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on a un accès extrêmement facile aux mémoires externes. Donc c'est un outil évidemment de communication, de connaissances extraordinaire, et il faut l'utiliser. En même temps, il faut conserver une mémoire interne. Alors bon, faut mettre plein de guillemets sur ces externes et ces internes, hein, bien entendu. Mais c'est très important que l'enfant, l'adolescent, la personne qui devient adulte, ait sa propre synthèse, soit capable de faire sa propre synthèse. Une mémoire, ça ne peut pas se résumer à des chemins qui conduisent à tel ou tel type d'information, à tel ou tel endroit. Il faut aussi faire en sorte que la personne apprenne à faire la synthèse. Et ça, je pense que c'est très important. Et la différence, je pense, avec la naissance de l'écriture, le livre, c'est que ce sont des acquisitions sociales et culturelles qui se sont faites dans des temps relativement longs. Alors que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un changement extrêmement rapide. Et donc, nous devons être capables, citoyens, éducateurs, d'accompagner ce changement rapide. Et donc, certes, il faut utiliser ces outils, ils existent et ils peuvent être très très bénéfiques, mais il faut vraiment accompagner leur utilisation, parce que le problème qui est posé n'est pas seulement un problème technique, hein, c'est un problème beaucoup plus sociologique, socioculturel.
On a fait plusieurs fois l'analogie entre utilisation de la mémoire et pratiques sportives. J'aimerais qu'on dise un mot de la santé. On fait souvent référence au sommeil comme un moment de mémorisation. Il y a aussi chez la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, mais des statistiques assez inquiétantes sur à la fois l'usage du cannabis. Enfin, c'est absolument pas réservé à la jeunesse. En fait, la France est extrêmement consommatrice de cannabis par rapport aux autres pays européens, l'alcoolisation aussi. Ne faudrait-il pas prévenir les jeunes gens également sur la nécessité de prendre soin de son cerveau et donc de sa mémoire, Francis Eustache?
Oui, ce que vous venez de citer là, c'est très important de le dire dans une telle émission. Bon, le cannabis, vous avez pris ce premier exemple, est extrêmement néfaste pour la mémoire. Chez des individus fragiles, ça peut entraîner des psychopathologies graves, comme des bouffées de ce qu'on appelle des bouffées de schizophrénie, qui ne sont pas forcément une schizophrénie définitive, mais disons que ça va fragiliser des individus qui sont un petit peu borderline. L'alcool a des effets néfastes aussi. Ce qu'on appelle le syndrome de Korsakoff, c'est un syndrome amnésique majeur qui a été décrit chez des patients alcooliques. Donc, et puis les modes des consommations des jeunes adultes et des adolescents, ce qu'on appelle le binge drinking, c'est-à-dire que boire des grandes quantités d'alcool sur des durées courtes, c'est extrêmement néfaste sur le développement d'un cerveau.
Parce que le cerveau adolescent est plus fragile.
Alors le cerveau de l'enfant et de l'adolescent, c'est un cerveau qui se construit. C'est-à-dire que le cerveau, c'est un organe très particulier, extrêmement plastique. Et le petit bébé qui est formidable, qui a envie de communiquer, il a déjà des tas de capacités, des tas de potentialités, mais il a hérité d'un cerveau qui est en cours de maturation. Et donc, c'est un cerveau qui va lui permettre d'apprendre énormément de choses, parce que c'est un cerveau qui est fait pour ça, qui est fait pour apprendre. Et c'est extraordinaire de voir des petits de 18 mois, de 3 ans, la vitesse où ils apprennent le monde qui est autour d'eux, la complexité du monde. Mais en même temps, ce cerveau en évolution, c'est un cerveau extrêmement fragile. Et donc, ces toxiques que l'on vient d'évoquer là, sur ce cerveau, en cours de maturation, a des effets vraiment catastrophiques. Juste un mot sur le sommeil, oui. Parce que vous avez parlé du sommeil. Il faut aussi protéger le sommeil des enfants, des adolescents. Le sommeil permet de consolider la mémoire. C'est-à-dire que tout ce qu'on apprend dans la journée, il suffit pas de s'en souvenir seulement le soir, mais il faut que ces souvenirs soient transmis, ces souvenirs et de façon plus large ces connaissances soient transmises pour les jours qui viennent, puis ensuite qu'ils soient à nouveau renouvelés avec de nouveaux apprentissages. Et le passage par le sommeil, alors c'est évidemment quelque chose de très complexe, hein, il y a différents cycles de sommeil qui sont spécialisés dans différents types d'apprentissage, tout ça est une machinerie à la fois magnifique mais très très complexe, mais il faut absolument protéger le sommeil. Et les écrans, c'est aussi un problème
une
pour
menace.
Le sommeil, puisque ça crée un sommeil de mauvaise qualité.
Vous dormez bien, Sébastien Martinez?
Oui.
Champion
oui.
de la mémoire.
Oui, je dors bien. C'est vrai que par rapport au sommeil, on le voit en compétition. Nous, ils jouent sur vraiment deux axes. Il y a un axe vraiment attentionnel. On sent qu'on est... Enfin, moi, je suis beaucoup moins attentif quand j'ai moins dormi la veille, le jour de l'épreuve. Et donc, je sens que je suis moins rapide. Et après, il y a sur un aspect aussi quand je mémorise, quand j'ai des discours, des présentations à faire, quelque chose de nouveau, si je le mémorise la veille et qu'il y a au moins une nuit de sommeil entre la phase d'apprentissage et la phase de restitution, c'est quand même beaucoup plus fluide dans la restitution, dans la récupération.
Olivier Houdet, sur la question de l'hygiène de vie, qui serait aussi une hygiène du cerveau et de la mémoire.
Je crois que la santé que vous évoquez, la question de la santé, Louise, renvoie au corps, le cerveau dans le corps, et il faut expliquer cela aux enfants. C'est pourquoi on s'attache, nous aussi, avec mon collègue Grégoire Borse, à écrire des livres qui expliquent le cerveau aux enfants, chez Nathan, Mon cerveau, Explore ton cerveau, en Kididoc, dès la maternelle. Et en fait, l'enfant ne pourra comprendre ces mécanismes qui, comme vous le disiez très bien, sont invisibles. On apprend à l'école le système digestif, les différents membres du corps. On n'apprend pas le fonctionnement du cerveau et l'impact entre le cerveau et les activités quotidiennes. Et donc, c'est une santé cognitive qu'il faut acquérir sans nécessairement qu'on parle de pathologie. Ce n'est pas nécessairement une tumeur au cerveau, la question de santé, ni une méningite, la question de santé. C'est simplement bien utiliser son cerveau pour le bien-être cognitif tous les jours. Et de ce point de vue-là, une meilleure connaissance du cerveau, comme une meilleure connaissance du corps, nous fait mieux vivre, plus heureux et plus intelligent.
Dernière question, Francis Eustache. La mémoire est une question philosophique et on n'a même pas besoin d'être un philosophe pour comprendre. Est-ce que cette question d'une représentation si forte de la mémoire rentre dans vos réflexions et vos recherches ?
Effectivement, au-delà de la mémoire comme un outil qui permettrait d'apprendre, je pense qu'il y a compréhension au-delà de l'importance de cette fonction qui nous permet de, eh bien, de revenir vers des personnes aujourd'hui disparues, qui nous permettent d'anticiper le futur. On en a parlé à un moment de l'émission. Donc cette mémoire, c'est bien plus qu'un simple outil qui nous permettrait de retenir des listes de mots ou même les tables de multiplication, même si c'est important. On ne revient pas là-dessus. Donc, et je pense que les personnes ont conscience de ça. Les adultes qui ont peur de perdre la mémoire, c'est pas simplement perdre les listes de courses. Vous voyez, c'est un lien extrêmement important avec à la fois nous-mêmes et puis avec tous les autres, toutes les personnes que l'on aime. Donc, oui, la mémoire, je pense qu'il y a cette compréhension. Il y a un côté. Il y a un côté un peu métaphysique derrière ce terme.
Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Je conseille vivement la lecture de vos livres, Sébastien Martinez, Francis Eustache et Olivier Houdet. Toutes les références sur le site de France Culture à la page d'Être et Savoir. On passe à la dernière rubrique de l'émission. On retrouve Paul Chemetov pour la deuxième partie de sa leçon de choses avec Sophie Beaubert. Une éducation multiculturelle et artistique a marqué l'architecte bien avant qu'il ne commence à regarder les maisons.
On était des intellos russes du 19 ou du début du 20e siècle. Ce qui leur donnait un avantage certain sur... Et moi, ça m'a donné un milieu familial dans les lectures, ce que je voyais du travail de mon père, qui était graphiste et metteur en page, enfin, des gens dont on parlait à la maison, qui étaient des peintres, des écrivains, tout ça créait un milieu...
Donc vous étiez un enfant sensible, curieux, cultivé, sans doute assez heureux. Mais à quel moment, à quel âge avez-vous commencé à regarder les maisons de façon particulière?
Mais quand j'ai commencé mes études d'architecture.
Pas avant?
Non, pas avant. Avant, je m'intéressais à la littérature, à la philosophie, à la peinture, à n'importe quoi. Mais pas tellement, sauf ces bouquins de Corbu, mais ces bouquins de Corbu, c'est pas tant les maisons qui nous a frappé dedans, c'est le style prophétique. Prouvet a dit un jour, il a parlé des maisons comme des architectes, comme, disons, nécessaires aux jours heureux. Au fond, l'architecture, parce que, comme la philosophie, elle parle des choses du monde et elle les transforme.
En quoi est-ce qu'on peut trouver un peu d'enfance dans un bâtiment ou dans une maison?
Qu'est-ce qu'on appelle l'enfance Je cite souvent cette annotation de la main de Louis XIV sur un plan de Versailles. Il y faudrait plus d'enfance. Je trouve ce raccourci, mais extraordinaire. C'est-à-dire, il y faudrait plus d'émerveillement, il y faudrait moins de colle à midonner, il y faudrait plus de dérives et de rêves possibles.
De surprises.
De surprises, c'est tout ça. Je crois que c'est... Il faudrait plus de naïveté, à vrai dire. C'est-à-dire, il faut un peu de naïveté dans les bâtiments. Faut pas que les bâtiments soient roués, soient au courant de tout, soient in the wind, comme on dit. Un bâtiment à la mode, on en voit. On voit des bâtiments ridicules des années 20, comme des années 1900, comme des dernières années du siècle passé. Ils ont reçu des prix de façade de la ville de Paris. On les trouve grotesques aujourd'hui, surchargés, faisant le trottoir en quelque sorte, de la retape. Il faut une certaine... si vous voulez, c'est comme l'aspirine. L'aspirine, ça a un effet retard. Les bâtiments, ça doit avoir un effet retard. On ne doit pas voir tout. Le truc où on voit tout du premier coup, aucun intérêt. Ça peut paraître un peu froid, mais en grattant, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses. Et chaque fois qu'on gratte, on trouve d'autres choses. Un recoin, une ombre, une façon de poser son coude, de prendre un tournant ou d'un escalier. Des tas de choses qui ont à voir tant avec les murs qu'avec les corps.
Lorsque vous fermez les yeux, Paul Chemetov, quelle image de vous, enfant ou jeune adolescent, ressurgit ?
Plutôt des souvenirs de vacances. Ma première langue a été le russe.
Donc cette image qui surgit de vous, c'est vous, Paul Chemetov, enfant, en train de jouer et de parler en russe avec les copains de vos parents.
Voilà. C'est ça, c'est l'avant-guerre, c'est-à-dire très 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 longtemps, parce que ça, on est en 2019, ça nous ramène avant 39, c'est-à-dire il y a, 39, c'est 80 ans en arrière.
C'est ça la naïveté dont vous parliez ?
Sans doute.
La semaine prochaine, nous nous entretiendrons avec des écrivains enseignants qui racontent l'école, la classe, les élèves et finalement la société. En attendant, vous pouvez retrouver nos podcasts et nous réécouter en ligne sur le site de France Culture. Évidemment, merci à Avril Ventura avec qui je conçois et prépare cette émission chaque semaine. Merci à Alexandre Manzanares pour la réalisation de cette émission. Merci à Alice Seyed et Benoît Mervan à la prise de son ce soir à Paris et à Caen. Nous vous souhaitons collectivement à toutes et à tous une excellente soirée à l'écoute de France Culture.